Eusko Ikaskuntza, Société d'études basques et la mairie du Staritz. Hommage à Eugène Goyeneche. Ustaritz, 2 octobre 1999. Dans cette première émission, nous vous proposons deux interventions, celle de Maïté Lafourcade, consacrée à l'enquête de 1311, et la seconde, que je vous propose tout de suite d'entendre, celle de Jean-Claude Laronde, Eugène Goyeneche, jeune militant basque à Paris.
Je voudrais, dans cette communication, rendre hommage à Eugène Goyeneche, jeune militant basque à Paris. D'autres que moi, sans doute aujourd'hui, rendront hommage au grand historien. Mais je crois que chez lui, les deux facettes, le militant, l'historien, sont indissociables. C'est dans la classe de philosophie, au collège Saint-Louis de Gonzague, à Bayonne, durant l'année scolaire 1931-32, qu'il est saisi par ce qu'il faut bien appeler le démon de l'histoire. C'est de cette époque-là aussi que date la première prise de contact avec un mouvement politique, le Parti nationaliste basque, qui va marquer profondément son existence. C'est surtout durant cette année-là que va se produire une rencontre décisive. Est alors en effet surveillant d'études au collège Saint-Louis de Gonzague, Jean-Pierre Uricariette. Alors, qui est Jean-Pierre Uricariette? C'est à l'époque un séminariste âgé de 26 ans, originaire des Aldudes, c'est un brillant intellectuel, très féru d'histoire basque, un esprit cultivé et indépendant. Jean-Pierre Uricariette ne va pas tarder à avoir des discussions passionnées avec le jeune élève de philosophie de 10 ans, son cadet. Toute sa vie, Eugène Goyeneche aura une grande reconnaissance pour Jean-Pierre Uricariette, celui qui l'initia à la fois à l'histoire et à la politique basque. Un jour, Eugène Goyeneche m'a confié, Jean-Pierre Uricariette était un curieux mélange de monarchisme maurassien et d'abertzalisme. Alors, en effet, je crois qu'il faut retenir cette formule d'Eugène Goyeneche, curieux mélange, parce que, effectivement, on n'est pas habitué, en tout cas de nos jours, à une telle situation. Jean-Pierre Uricariette disparaîtra à 44 ans en 1950 alors qu'il était curé de Mouguer. Je vais étudier précisément l'activité militante d'Eugène Goyeneche à Paris entre deux dates. Novembre 1932, il a alors 17 ans, date à laquelle il s'inscrit à la faculté de droit, il s'inscrira plus tard en histoire, et juillet 1936, le début de la guerre civile d'Espagne. En effet, à partir de l'automne 1936, il se met entièrement au service de la délégation parisienne du gouvernement basque et cette tâche va l'accaparer totalement. Installé dans une chambre d'un petit hôtel, en plein cœur du quartier latin, rue Gay-Lussac, maître d'études à l'école Bossuet, rue Guynemer, durant 2 années scolaires, de 33 à 35, il est le témoin privilégié des événements qui secouent la capitale. Émeute du 6 février 1934, avènement du Front populaire, etc. J'ai donc choisi d'étudier l'action militante d'Eugène Goyeneche dans une courte période de sa vie, 5 ans à peine, et dans un endroit particulier, Paris. Cependant, je crois qu'on pourra juger de son activité débordante, je dirais une activité tous azimuts, en faveur de la cause basque. En effet, durant ces 5 années, Eugène Goyeneche va déployer à Paris une grande activité militante. Militantisme basque, bien sûr, mais également relations suivies avec le mouvement fédéraliste et contact fréquent avec des militants d'autres minorités. Dans les années 1933-34, 3 événements vont marquer la vie de la colonie basque à Paris. Eugène Goyeneche sera directement impliqué dans chacun de ces trois événements. Le premier de ces événements est la constitution en février 1933 de l'Association des étudiants basques de Paris, Euskal Ikasleen Biltzarra, EIB. Eugène Goyeneche en est le président. Les statuts de cette association indiquent qu'EIB n'a pas de tendance politique. Il précise cependant que cette association, je cite, s'associera en toute occasion à l'actuel mouvement de renaissance basque. Sa devise est Eskual Sale eta Yakin Sale. Euskal Ikasleen Biltzarra réunit des étudiants du Pays Basque Nord, les plus nombreux, Édouard Arriague et Pierre Madré d'Asparin, Jean Etcheverry-Enchard de Baïgorry, Bernard Godel et Jean Orgogozo de Bayonne, etc., et quelques étudiants du Pays Basque Sud, dont Julian Arruyaguerra. En mai 1933, le siège de cette association est installé au Trinquier de Paris, rue de la Cavalerie. Au nom des étudiants basques de Paris, Eugène Goyeneche prononce un discours remarqué lors de l'assemblée d'Eskual Sale Biltzarra en septembre 1933 à Louossoua. Le deuxième de ces événements est la fondation en avril 1933 de la section parisienne d'Eskual Sale Biltzarra. Louis Dassens, un autre starista, monsieur le maire, président à l'époque d'Eskual Sale Biltzarra, donne son accord et prodigue ses encouragements. Dans une lettre, il demande aux assistants à l'Assemblée constitutive de vouloir bien voter pour la création de l'Eskual Sale Biltzarra à Paris, en parfait accord avec les statuts de la société mère et ayant les mêmes buts, c'est-à-dire de favoriser par tous les moyens légitimes en son pouvoir la conservation de la langue basque et sa diffusion. L'éminent bascologue Georges Lacombe, académicien basque et ancien président de l'Eskual Sale Biltzarra, accepte la présidence de la section. Paul de Rocasera, Légarade, en est le trésorier. Un programme d'activité fut mis sur pied qui comprenait des cours de langue basque élémentaire et supérieure et des conférences d'histoire basque. C'est dans ce cadre que le 6 juillet 1936, Eugène Goyeneche prononça une conférence intitulée « La Renaissance basque ». On sait comment, 12 jours plus tard, le soulèvement de Franco se donnera comme l'un de ses objectifs de briser cette renaissance basque. En janvier 1934, le siège de la section parisienne de l'Eskual Sale Biltzarra est installé 3 rue du Dragon, à Paris, 6e arrondissement, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés. Et une permanence est assurée tous les jours, sauf le dimanche, de 15h à 20h. C'est dans ce local de la rue du Dragon que va s'effectuer dans les années 30 une propagande importante concernant les idées basquisantes, particulièrement à l'écoute de l'important mouvement de renaissance culturelle et politique impulsé en Aigualdé par le Parti nationaliste basque à la faveur du régime de liberté politique qui a été mis en place par la Seconde République espagnole à partir du mois d'avril 1931. Le troisième de ces événements est la parution du journal Elgar à partir de juillet 1934. À l'initiative, justement, de la section parisienne d'Eskual Sale Biltzarra, en particulier de Paul de Rocasera, Légarade, qui en sera le directeur. La parution d'Elgar, qui portait comme sous-titre « Journal des Basques de Paris », fut irrégulière. 10 numéros furent publiés jusqu'en 1936, date à laquelle s'arrête cette publication, qui ne reparaîtra ensuite qu'en 1948. Et vous savez qu'Elgar continue, en ce moment, sa parution. Eugène Goyeneche écrira plusieurs articles dans Elgar, mais il faut reconnaître que ses plus fortes sympathies allaient plutôt vers le mensuel Aïnsina que fit paraître en Pays Basque Nord le mouvement eskualériste à partir d'octobre 1934. Il est à souligner que l'idéologie du journal Elgar est une idéologie fortement marquée à droite, beaucoup plus conservatrice que celle d'Aïnsina, également beaucoup plus timide sur le plan des idées basques. Durant ces années 1932 à 1936, Eugène Goyeneche sera surtout à Paris le correspondant du mouvement eskualériste, un mouvement impulsé en Pays Basque Nord par l'abbé Pierre Lafitte et dont les premières réunions avaient eu lieu en août 1932. Lorsque Eugène Goyeneche part à Paris à l'automne 1932, un petit groupe, de militants existent donc déjà en Iparralde, qui rêvent, à l'instar des frères d'Egoalde, de réveiller un pays endormi ou léthargique. C'est avec ce groupe que Gilles Goyenech se reprend contact à l'occasion de toutes les vacances universitaires passées à Ustaritz. Et ce groupe, d'ailleurs, comptait, outre l'abbé Pierre Lafitte et Eugène Goyenech, deux autres Ustaristas, Pierre Amoussin et Jean Dubosc. Ce mouvement reprenait la devise du Parti nationaliste basque, mais en l'adaptant au Labourdin. Dienkoa est à Lege Sahara. Dans sa brochure, parue en novembre 1933, brochure intitulée « Eskualeriaren alde », le mouvement eskualeriste se prononçait, dans l'esprit des anciennes constitutions basques, pour une large décentralisation politique et administrative, pour la reconnaissance de la langue basque et son officialisation dans les administrations, les tribunaux et les écoles, pour la rebasquisation et la promotion de la culture basque, et plus généralement, pour la défense et la promotion des coutumes et traditions basques. Eugène Goyenech publie plusieurs articles dans Aintzina, qui est, je l'ai dit, donc, l'organe mensuel du mouvement eskualeriste à partir d'octobre 1934, et il est chargé de recruter des abonnements à Paris, pour Aintzina. Il correspond avec de nombreux membres de ce mouvement, l'abbé Pierre Lafitte, bien sûr, mais aussi Pierre Amoussin, Jacques Mestelin ou encore Michel Diars, le frère aîné d'Iratzeder. C'est cette correspondance qui a été soigneusement conservée dans les archives de Gilles Goyenech à Oualdia qui m'a permis d'écrire l'histoire du mouvement eskualeriste. Pendant les vacances universitaires, également, Eugène Goyenech est en contact avec ses amis du PNV d'Egoalde. Il écrit dans leurs journaux depuis 1932, alors qu'il n'a que 17 ans à l'époque, et dès 1933, donc à 18 ans, il intervient comme orateur lors de meetings du PNV, parfois aux côtés de José Antonio de Aguirre, le futur Lendakari, comme par exemple à Bermeo ou à Sumaraga. Une grande amitié le liait à José Aristimuño, à Itzol, qu'il avait rencontré à Bayonne dès 1932, et qui sera l'un des 16 prêtres basques fusillés par les franquistes à l'automne 1936. L'activité militante de Gilles Goyenech était, on l'a vu, importante. Mais pour lui, elle devait avoir pour complément une action au sein du mouvement fédéraliste. Dans les années 1930, existait à Paris le foyer d'études fédéralistes, FEF, qui avait son siège 30 rue Monsieur le Prince, Paris 6e, dans la librairie que tenait Marcel Péguy, le fils de Charles Péguy. Le foyer d'études fédéralistes éditait la revue Le Fédéraliste. Le FEF centrait son activité sur les minorités nationales de l'État français, Alsace, Bretagne, Occitanie, Pays Basque, etc. Dès l'automne 1933, Eugène Goyenech est un assidu des réunions mensuelles du FEF, au cours desquelles il fera plusieurs exposés sur notamment la situation politique en Pays Basque Sud. Fin 1934, Eugène Goyenech devient le secrétaire général du FEF. Il prend le pseudonyme de Charles Hiriart pour ses activités fédéralistes. Les 2 et 3 juin 1934, le FEF organise un congrès à Paris sur le thème « Éléments de fédéralisme en France ». La réunion du 2 juin a pour thème « Les mouvements particularistes et les patries locales » et celle du 3 juin « Fédéralisme et révolution spirituelle ». En février 1935, le FEF publie le premier bulletin d'un mensuel intitulé « Les patries de France », dont Eugène Goyenech, sous son pseudonyme de Charles Hiriart, est le rédacteur en chef. Le titre du bulletin est suivi de sa traduction dans 6 langues de l'Hexagone. En alsacien, en basque, franciaco à Berriac, en occitan, en provençal, en breton et en flamand. Le numéro 1 contient un article d'Eugène Goyenech intitulé « La renaissance du peuple basque ». Incontestablement, les années 30 sont un temps fort pour les mouvements régionalistes. Il aurait été étonnant que les fédéralistes n'essaient pas de profiter de ce bouillonnement des mouvements périphériques. Il aurait été également étonnant que Gilles Goyenech n'y participât point. mais ce dernier avait également noué des contacts fructueux avec des militants d'autres minorités. On peut dire que durant ces années à Paris, à travers ses contacts avec les militants d'autres minorités, Eugène Goyeneche sera en quelque sorte le délégué officieux aux relations extérieures du mouvement basque. Incontestablement, c'est avec les militants bretons, membres ou sympathisants du Parti national breton, qu'il aura les contacts les plus fréquents et les plus durables. Dès février 1933, il prononce une conférence sur le mouvement national basque lors de la réunion mensuelle du Parti breton. Il assiste également aux réunions du Cercle d'études bretonnes et celtiques. Le groupement, c'était le groupement des étudiants bretons à Paris, qui avait lieu, ces réunions avaient lieu au pavillon central de la cité universitaire, 37 boulevard Jourdan, à Paris, dans le 14e arrondissement. Ce cercle avait pour but de resserrer les liens d'amitié entre les étudiants bretons et d'étudier en commun toutes les questions historiques, littéraires, artistiques et économiques concernant la Bretagne. Ce cercle avait été fondé au début de 1934 par Yann Fouéré, qui en sera le président, et avec qui Eugène Goyeneche se liera d'une profonde amitié, comme d'ailleurs avec Yves Delaporte, un autre leader breton. Mais les contacts d'Eugène Goyeneche ne s'arrêtaient pas aux minorités de l'Hexagone. Il connaîtra aussi de près, par exemple, les nationalistes ukrainiens en exil à Paris, en particulier le prince Jean de Tokary, qui avait été ministre des Affaires étrangères d'Ukraine et ambassadeur d'Ukraine à Constantinople. Les opinions de ces exilés ukrainiens étaient intéressantes à connaître sur le plan de la politique internationale. Ainsi, et c'est un renseignement que je tiens d'Eugène Goyeneche lui-même, ainsi par exemple le prince de Tokary annonçait de façon certaine, dès Pâques 1936, la déclaration de guerre de Mussolini au gouvernement de la Seconde République espagnole. En conclusion, je voudrais insister sur cette activité débordante de jeunes militants basques, de jeunes militants abertzalés, qui a imprégné la vie de Eugène Goyeneche à Paris au détriment de ses études et de sa carrière. En effet, arrivé à Paris à l'automne 1932, après une expérience malheureuse à la faculté de droit, il s'inscrira en licence de lettres, histoire. Il n'obtiendra son premier certificat de licence, histoire du Moyen-Âge, qu'en novembre 1937, soit 5 ans après son arrivée dans la capitale française, avant d'intégrer en novembre 1938 la prestigieuse École des Chartes, en même temps qu'il obtenait sa licence d'histoire. On peut dire que les heures de militantisme avaient largement débordé sur celles allouées aux études universitaires. De plus, c'est pendant ces années qu'il étudie en profondeur l'histoire basque. Pourtant, Eugène Goyeneche ne regrettera jamais ces années consacrées presque entièrement à la cause basque, au détriment, on peut le dire, de sa propre carrière. Koldo Michelena, lors de la réception d'Eugène Goyeneche en tant que docteur honoris causa de l'Université du Pays Basque en 1982, insistera sur ce point et lui rendra hommage. En définitive, ce fut la conscience qu'il avait, comme militant, de la nécessité et de l'importance d'une bonne connaissance historique qui le conduisit à embrasser le passé du peuple basque, le passé du Pays basque, pour tenter d'appréhender son présent et, autant que possible, de dégager des lignes directrices pour l'avenir. C'est ainsi que ce militant historien put écrire « L'histoire, maîtresse du présent et clé de l'avenir ». Je vous remercie.
Vous venez de suivre l'intervention de Jean-Claude Laronde, Eugène Goyeneche, jeune militant basque à Paris. Hommage à Eugène Goyeneche, le 2 octobre 1999 à Ustaritz. Nous poursuivons maintenant avec Maïté Lafourcade qui nous parle de l'enquête de 1311.
Alors, la vicomté de la Bourg, donc, avait été annexée au duché d'Aquitaine après la mort de Sanche III le Grand, fut portée en dot par la duchesse d'Aquitaine, Aliénor, à Henri Plantagenet, qui était duc d'Anjou et de Normandie, et qui devint roi d'Angleterre 2 ans après, en 1154, à la mort de son père. Donc, depuis lors, le pays de la Bourg se trouva dans la mouvance du roi d'Angleterre, qui était en même temps duc d'Aquitaine. Mais ce petit pays était convoité par les voisins, notamment par les rois de Navarre, surtout depuis l'accession au trône de Pampelune en 1234 de Thibaut de Champagne, qui était vassal du roi de France. Et il fut plusieurs fois dévasté par les troupes navarraises, notamment vers 1245. D'ailleurs, Henri III d'Angleterre a séjourné à ce moment-là 3 ans à Bayonne pour essayer de rétablir la paix qu'il a rétablie, mais pas pour longtemps, parce qu'il y a eu encore une nouvelle guerre en 1266, dont l'anarchie était très grande. Et bien que le roi-duc fût représenté par un sénéchal qui s'appelait sénéchal de Vasconie et par un bail en labour, il ne connaissait pas exactement tous ses droits sur la terre de labour. C'est pourquoi le roi Édouard II d'Angleterre, après cette période fort troublée de l'histoire du duché de Gascogne, fit faire une série d'enquêtes, parmi lesquelles celle de 1311 en Labourg. L'original est actuellement perdu, mais il en existe 2 copies et 2 traductions aux archives municipales de Bayonne. Le plus ancien document, qui est conservé sous la cote DD 21, est rédigé en latin. C'est un parchemin daté de 1566 et à la fin de la copie, le greffier, qui s'appelle de Pontac, signale qu'il l'a collationné avec l'original qui se trouve, dit-il, du feuillet 119 au feuillet 125 d'un livre en parchemin qu'il a découvert au trésor de la comptablie de Bordeaux et que cette copie a été ordonnée par la cour, c'est-à-dire le Parlement de Bordeaux, et demandé par le procureur général en présence de maître Jean Poifféré, procureur de Léon d'Espelette, seigneur et baron. Alors on peut supposer que cette enquête a été exhumée pour régler un conflit entre le baron d'Espelette et les habitants de cette paroisse. Une autre copie sur papier, celle-là, côté des Dévins Inters, est datée du 16 novembre 1684. Elle a été faite à la demande du fermier général du domaine du roi en Guyenne pour prouver ses droits, les droits du roi, sur les terres vacantes, bois et rivières du Labour, qui sont contestés par les habitants de ce pays, et pour pouvoir y percevoir, bien sûr, les droits domaniaux qui lui étaient affermés. Elle est assortie d'une traduction en français datée du 10 novembre 1684 qui figure aussi aux archives municipales de Bayonne sous la cote DD 21 quarter. La requête du fermier général à l'intendant de Guyenne figure au pied de ces 2 documents. Le greffier Pagès dit, comme le précédent copiste, qu'il a directement aussi copié sur l'original qui est dans un livre de Lombrière, dit-il, couvert de basane, trouvé dans les archives du roi. Mais les 2 copies sont différentes. Alors, laquelle est la plus fidèle à l'original? Il semble que ce soit la plus ancienne, celle de 1566, parce que celle de 1684 comporte des erreurs, notamment des noms défigurés et puis des passages absolument incompréhensibles. Cependant, c'est cette dernière copie qui a été publiée par Balasque et Dulerand dans leurs études historiques sur la ville de Bayonne. Et quant à la traduction en français, elle est aussi très défectueuse. Une autre traduction datée du 19 juin 1728, côté DD 1 bis, a été faite par un nommé Pierre Bergère, qui était traducteur, à la demande du lieutenant du sénéchal des Lannes au siège de Bayonne, qui s'appelait l'espèce de Huron, probablement donc au cours d'une procédure. Mais elle n'est pas meilleure que la précédente. C'est pourquoi le très regretté Eugène Goyeneche voulait publier une nouvelle édition de cet important document pour l'histoire du Pays basque. Mais malheureusement, il est décédé avant d'avoir pu le faire et il m'avait remis la transcription, heureusement, parce que c'était très difficile à lire, bien sûr, c'était un parchemin. Bon, voilà la transcription qu'il m'avait donnée, vous voyez, sur un papier, la pelure, c'est une pelure, et que j'ai exhumé, moi aussi, pour l'étudier. J'en ai profité pour, aujourd'hui, vous exposer le commentaire. J'en ai fait donc la traduction en français, puisque c'était entièrement latin, et j'en ai fait donc le commentaire. Il s'agit donc, comme je vous le disais, d'une enquête ordonnée par Édouard II, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, pour rechercher et déterminer ses droits sur la terre de labour. Alors, elle est réalisée par les commissaires royaux qui avaient été envoyés en labour en 1311 à cet effet. Alors, ces derniers ont interrogé 10 témoins qui sont dans l'ordre de leur déposition le bail Brasco de Tardès, qui fut le représentant du roi en labour de 1278 à 1312, Martin de Irigoyen qui lui succéda, Pierre de Junca, Onéra de Saint-Martin, ces trois qualifiés de damoiseaux, c'est-à-dire gentilhommes, Bernard de Martiali, Autouin de Beistran, Bernard de Lagarde, Pierre de Dassensa, peut-être un ancêtre de M. Dassens, ces deux derniers également qualifiés de damoiseaux, Guillaume Arnaud d'Orguré et Gratien d'Ustia. Ils ont, disent-ils, entre 45 et 70 ans, mais évidemment, c'est très approximatif. Tous, après avoir prêté serment de dire la vérité, ont répondu aux questions posées par les commissaires. Ces questions posées, d'une part, sur les droits de suzeraineté du roi d'Angleterre en tant que duc d'Aquitaine, et d'autre part, sur ses droits utiles. Alors, voilà les deux points, donc, de ce commentaire. Alors, tous les témoins, d'abord, reconnaissent que leur seigneur, le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, a le domaine éminent sur la terre de labour. Ses habitants n'en ont que le domaine utile. Les 10 témoins affirment que la terre de labour est tenue immédiatement du seigneur roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, par les nobles et les habitants de la dite terre. Dans le contexte, en ce début du XIVe siècle, d'une féodalité généralisée, le labour se distingue d'abord parce que la terre est tenue directement du seigneur suzerain, sans intermédiaire, et que tous les habitants, nobles et non nobles, sont placés sur un pied d'égalité vis-à-vis du seigneur roi. Donc, il n'y a pas de hiérarchie féodale en labour. Brasco de Tardès, ainsi que 3 autres témoins, précise que les terres vacantes, bois et rivières appartiennent au seigneur roi depuis plus de 40 ans et même au-delà, comme il l'a entendu dire, précise le bail. Il s'agit donc d'une coutume immémoriale, ce qui lui donne force de loi. Cette précision était nécessaire car il ajoute que les gens du pays disent le contraire. En effet, les Labourdins ont toujours prétendu que leur terre était allodiale, c'est-à-dire tenue des ancêtres et qu'elle n'était pas concédée par quiconque. Martin de Rigoyen exclut du domaine royal la terre de Beiria-Asparin, qui appartient au seigneur de Sceaux, le domaine d'Espelette et la paroisse de Macaille, qui appartient au seigneur de Paganduria. Le seigneur roi, propriétaire des terres vacantes bois et eaux, les a concédées aux habitants, lesquels dès lors, dit-il, sont ses hommes et lui doivent les services vassaliques, soit l'ost et la chevauchée, à leurs frais jusqu'au port de Colas, qui serait d'après Eugène Goyenech à Saint-Julien-en-Borne, et au-delà, aux frais du seigneur roi dans l'Aquitaine pendant 40 jours, durée annuelle d'après le droit féodal du service d'ost que les vassaux devaient à leur seigneur. Un témoin ajoute même le service de cour, lequel en droit féodal était double, conseil et participation à la cour de justice seigneuriale. Un autre témoin, qui est Pierre d'Assensa, spécifie même l'hommage que tous devraient au seigneur roi, même les non-nobles, mais il devait être évidemment plus implicite que réel. Il est intéressant de constater que ces devoirs étaient communs à tous les habitants, nobles et non-nobles. Alors que partout ailleurs, les nobles devaient uniquement, il n'y avait que les nobles qui devaient les services militaires au seigneur qui leur avait concédé un fief. Mais il est vrai que le labour était censé avoir été concédé en fief à tous les habitants. Tous sont donc placés sur un pied d'égalité, ce qui est exceptionnel au XIVe siècle où le clivage entre les nobles et les roturiers était très net. Et tous les habitants, sans distinction, avaient le libre usage des terres vacantes, bois et rivières, c'est ce que le droit féodal appelle le domaine utile. Plusieurs restrictions exprimées par les témoins affectent cependant ce droit d'usage. Les unes concernent les nobles, les autres les paysans, bien que cette distinction ne figure pas dans le document, mais elle est implicite. Il est interdit de construire des maisons fortes sans l'autorisation du seigneur roi. Cependant, seul le bailli l'affirme, les autres témoins, étant pour la plupart des damoiseaux ou de riches propriétaires, se gardent bien de parler cette interdiction. En effet, Eugène Goyeneche énumère dans son incomparable ouvrage sur le Pays basque de nombreuses constructions de maisons fortes dans la bourg avec ou sans l'autorisation du roi. Il est aussi interdit de peupler des terres vacantes sans l'autorisation du roi. En effet, il était fréquent que de riches et puissants seigneurs s'approprient des terres vacantes et les concèdent à des paysans en échange du paiement d'une redevance, qui est normalement appelée cens, mais qu'ici on appelait fief, et de corvées sur ses propres terres, afin qu'il les défriche et qu'il les mette en culture. Or, plusieurs témoins signalent de telles usurpations en labour. Elles ont été faites, disent-ils, à l'occasion de la dernière guerre de Vasconie, il y a 10, 20, 30, 40 ans, ça varie selon les témoins. Le seigneur d'Espelette a peuplé sur les terres vacantes de sa propre autorité, dit le bailli, jusqu'à 7 maisons, que Martin Irigoyen quand même ramène à 5. Guillaume Arnaud de Sceaux en a créé 7, mais deux autres témoins en dénombrent 8 ou 9. Le seigneur de la Fée, sans doute l'a haie, 4 ou 5, mais Martin Irigoyen dit 3. Le seigneur de Paganduria, 8, ramené à 3 par Martin Irigoyen, porté à 9 par un autre témoin, tout cela n'est guère très précis. Mais les usurpations par ces quatre seigneurs sont incontestables. Le bailli précise que c'est à lui, en tant que représentant du roi, à allumer le premier feu dans une nouvelle maison qui, selon le formalisme en usage à cette époque, valait autorisation officielle. D'après lui, ces nouvelles maisons rapporteraient annuellement 12 deniers morlans de cens, plus 15 sols, voire davantage, d'autres redevances. Un témoin dénonce des abus commis par Arnaud de Sceaux et le seigneur de Paganduria, qui exercent sur leur fille Vatier la basse justice, qui est un droit de puissance publique qu'ils ont usurpé, comme bien d'autres d'ailleurs à cette époque, alors qu'ils n'avaient sur leur fille Vatier que ce qu'on appelle la justice foncière, qui est une justice privée, issue du contrat de fief, et qui ne concerne que les rapports nés de cette concession. Mais ces seigneurs n'ont pas d'autres droits de puissance publique. Le régime seigneurial n'existait donc pas en labour. En dehors de ces usurpations, le libre usage des rivières, des terres vacantes et des bois appartient à tous les habitants. Et Pierre de Ginca dénonce deux négociants bâillonnés qui ont posé des nasses qui entravent la navigation sur la Nive et qui ont même causé la mort de plusieurs personnes par noyade. Quant à la liberté de pâturage sur les terres vacantes, elle est affirmée par plusieurs témoins. Il précise cependant qu'il est interdit d'y introduire du bétail étranger sans l'autorisation du seigneur roi. Et si cette interdiction est enfreinte, le bailli peut expulser le bétail, se saisir d'un porc sur 5 et prendre de 3 jours en 3 jours la meilleure vache. Cependant, Pierre de Ginca signale que les bailli mêmes et les nobles introduisent du bétail étranger dans les vacances sans en donner aucun profit au roi et au grand préjudice des habitants du pays. Et si les forêts sont de libre accès et usage, il est précisé que personne ne peut y couper du bois ou en distraire quoi que ce soit, sauf pour un usage personnel et dans le bois de Fardia, je ne sais pas où il est, pour les travaux de l'église et du pont. Cependant, dit Martin Irigoyen, les bois sont dévastés par les bâillonnés et les labourdins eux-mêmes qui y prennent au-delà de ce qu'ils ont besoin pour leur usage personnel. Et il dénonce notamment l'évêque de Bayonne qui, sous prétexte d'un droit de voisinage, fait faire des coupes de bois contre le gré des habitants du pays. Il les a même excommuniés parce qu'il les avait détruites alors que la coutume du pays le leur permettait, ce qui est de la part de l'évêque un abus manifeste. Il apparaît donc que les témoins, convoqués par les commissaires du roi, profitent de cette enquête pour dénoncer tous les abus commis sur leur terre. Mais les commissaires veulent avant tout connaître les droits du roi, et non seulement la reconnaissance de sa suzeraineté, mais aussi ses droits utiles. Les uns provenant de sa position de suzerain étaient ce qu'on appelle des droits seigneuriaux, il s'agissait surtout du droit de justice, les autres étaient de nature féodale, il s'agissait des revenus fonciers. Tous les témoins reconnaissent que le seigneur roi a la plénitude du droit de haute justice sur tous les habitants du pays. Il pouvait donc, par l'intermédiaire du bail, avec appel au sénéchal de Guyenne puis à sa cour, condamner à mort tout criminel, voire simple délinquant, noble ou pas. Or, selon l'adage qui confisque le corps, confisque les biens, le seigneur justicier confisquait tous les biens du condamné à mort, y percevait aussi les amendes, toutes les taxes de justice, donc le droit de justice était pour son titulaire une importante source de revenus. Or, quatre témoins dénoncent ici encore les abus de l'évêque de Bayonne, de l'évêque et de son official, qui veulent étendre leurs compétences juridictionnelles au-delà des causes ecclésiastiques qu'un témoin énumère, matrimoniales, testamentaires, les cas spirituels et ecclésiastiques. Depuis 6 ans environ, dit-il, l'official de Bayonne se saisit de toutes les actions réelles et personnelles des laïcs du diocèse. Cette expansion de la justice ecclésiastique ne peut nous étonner, car elle était générale à cette époque où l'Église dominait la société, avant que le roi ne reconstruise son autorité. Mais, constate Martin de Hérigoyen, elle est très préjudiciable au seigneur roi qui perd ainsi une importante source de revenus. Il ne semble pas que le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, ait eu d'autres ressources liées aux droits de puissance publique, telles que recettes fiscales ou banalités, c'est-à-dire les monopoles économiques. Les témoins ne signalent seulement que le quart du moulin du bourg du Staritz, qui lui rapporte 10 livres morlanes par an. Mais parmi les revenus issus de sa position de seigneur territorial, il faut inclure celui que lui procurait la charge de bail. En effet, cette charge, comme celle de prévôt d'ailleurs, dans le domaine du roi de France, était mise à ferme. Et Brasco de Tardès dit l'avoir payé cette année 300 livres bordelaises, alors qu'elle n'en vaut, dit-il, que la moitié. Pierre de Genca ajoute qu'elle ne vaut pas plus de 100 livres, alors qu'avant la dernière guerre, dit-il, elle était affermée 75 livres et que le pays était néanmoins très bien gouverné. Et il explique la détérioration du pays par cette surestimation de la charge, les bailes étant quasiment obligés de commettre des abus pour entrer dans leurs fonds. Quant aux revenus fonciers que percevait le seigneur roi, ils n'étaient guère importants. Il faut encore remarquer ici que rien ne distinguait les nobles des autres habitants, si ce n'est seulement l'albergade, que 60, un témoin dit 70, hommes liges doivent au seigneur roi et à son bail, c'est-à-dire que ces derniers pouvaient loger, quand ils étaient en labour, dans n'importe quelle maison de ces hommes, avec toute leur suite. Ceux qui étaient redevables de ce service sont qualifiés par les témoins d'hommes liges. Sans doute devaient-ils au seigneur roi un hommage particulier, différent de celui que devaient rendre tous les autres habitants. Mais ils ne possédaient aucun fief et n'exerçaient aucun droit féodal, à l'exception des 4 seigneurs que nous avons cités plus haut. Sans doute avaient-ils une maison plus importante que les autres, c'est tout. Mais ce devoir, ce qu'on appelle normalement le droit de gîte, que dans le document on appelle l'albergade, était fort pesant. Les nobles labourdins le rachetaient, chacun 2 sous morlans par an, dit le bailli, 2 sous 6 deniers payés le jour de Saint-Jacques, disent d'autres témoins, 9 livres bordelaises, dit un autre. Et il ajoute, ce dernier témoin, Pierre de Genca, que cela rapporte davantage au roi et soulage les gentilshommes du pays. Le seigneur roi n'avait, semblait-il, aucun domaine propre, sauf d'après 2 témoins le château du Staritz, 1 témoin dit la motte, c'était probablement le siège du tribunal du bailliage où le bail rendait la justice au nom du roi. C'est là où est actuellement la mairie. Quant aux revenus annuels que percevait le seigneur roi, ils sont évalués d'après les témoins entre 30 et 40 livres morlanes. Il s'agissait probablement du cens dû par chaque maison au seigneur roi et qui lui était ensuite payé collectivement. Apparemment, cette somme n'était pas fixe et dépendait du nombre de maisons. En effet, Martin de Rigoyen signale que Loubert, bail il y a 3 ans, sans doute Loubert-Gouin de Bordeaux qui fut bail en 1308, a affranchi Michel de Lorite avec une petite pièce de terre que ce dernier abandonna, de telle sorte que le seigneur roi y a perdu tous ses revenus. Et il ajoute qu'il y eut d'autres cas semblables dont il ne se souvient pas, ce qui, dit-il, risque de faire perdre au roi beaucoup de revenus. En tout, albergades, cens, amendes, taxes de justice, revenus du moulin du Staritz, poules, porcs et autres devoirs, l'ensemble des revenus fonciers du seigneur roi ne dépassait pas, d'après Martin Irigoyen, 70 livres morlane par an, et même d'autres témoins disent beaucoup moins. Il faut remarquer l'absence de revenus provenant de tenanciers serfs, chevages, mains mortes, fort mariage. Les Basques étaient des hommes libres. Le servage était inconnu en Pays Basque, sauf en Navarre et en Alaba où il y a eu quelques coyassos, mais c'était tout à fait exceptionnel. Le statut de la paysannerie labourdine était donc fort privilégié par rapport à celui du monde rural à cette époque. Seule la présence du bail aurait pu gêner les labourdins, mais il était souvent de souche locale. Sinon, il était généralement absent du pays, comme l'étude par Ion Arrieta, qui va vous faire une communication cet après-midi, l'étude d'une glose d'Arcurs, le laisse supposer que le bail n'était pas souvent présent. Aussi, les labourdins se disaient-ils tous libres et propriétaires de leurs terres qu'ils prétendaient à l'odiat. Quand leurs droits et libertés étaient menacés par quelque usurpation seigneuriale ou par une concession royale, ils réagissaient toujours en défenseurs de leur liberté et obtenaient la révocation des concessions faites. Les exemples abondent dans les archives avant et après l'incorporation du labour au domaine de la couronne de France. Et les tenanciers des seigneurs qui sont signalés dans l'enquête de 1311 rachetèrent leurs droits féodaux, ainsi par exemple à Espelette ou encore à Macaille en 1684. Ces libertés, ces droits immémoriaux sur leurs terres, comme l'égalité de toutes les maisons nobles, franches, privatières, furent affirmés dans la coutume rédigée en 1514 et confirmés par le roi de France à chaque changement de règne. Et lorsqu'à la faveur d'ordonnances proclamant la directe royale sur toutes les terres du royaume, comme par exemple en 1629, les fermiers du domaine voulaient percevoir des droits en labour, les labourdins obtenaient du conseil du roi la reconnaissance de la propriété de leurs terres, évidemment contre bonne finance. Et dans le cahier des doléances rédigé pour les états généraux 1789 par le tiers état labourdin, le tiers signale comme une exception très regrettable les redevances que les habitants de la Hanse devaient payer à l'abbaye des Prémontrés et ceux de Bonloc à la commanderie de Roncevaux. Je cite, « Les seules traces de féodalité oppressive qu'on remarque avec effroi dans le pays de Labour de tous les temps nobles, c'est-à-dire libres et allodiales. Voilà. »
L'enquête de 1311, vous venez de suivre l'intervention de Maïté Lafourcade. Eusko et Kaskunsa, Société d'études basques et la mairie du Staritz. Hommage à Eugène Goyeneche. C'était le samedi 2 octobre 1999 à Ustaritz.